France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Et l'on débutera avec une victoire surprise hier soir à l'Assemblée. Un vote à une très large majorité pour stopper les fermetures de maternité. À suivre également les ventes de logements dits passoires énergétiques qui ont fortement augmenté depuis le début de l'année. On tâchera de savoir pourquoi. On s'intéressera par ailleurs à ce qui se joue derrière le dépôt d'une plainte ce matin de la France contre l'Iran devant la Cour internationale de justice. On se rendra bien entendu à Istanbul, poursuivre l'avancée ou pas des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie. Enfin, avec notre invité, on parlera des centres de retour pour demandeurs d'asile destinés à externaliser la gestion des questions migratoires en Europe. Aucune maternité ne fermera en France donc avant 3 ans hier soir à la faveur d'une proposition de loi portée dans le cadre de la niche parlementaire du groupe centriste Liotte. Les députés ont approuvé en première lecture et à la quasi-unanimité un moratoire de 3 ans sur ces fermetures. Alors commençons par rappeler que l'on compte aujourd'hui près de 460 maternités à travers le pays. C'est 3 fois moins qu'il y a 20 ans. Ce texte devrait donc permettre de stopper l'hémorragie, mais plus encore, il devrait permettre de répondre à la hausse de la mortalité infantile, passée de 3,5 décès pour 1000 naissances en 2011 à plus de 4 décès en 2024. Antoine Geoffin, bonjour.
Bonjour.
Au final, cette proposition de loi, Antoine, entend donc améliorer les soins pour les mères et leurs enfants.
Et dans sa région, le professeur Yves Aubard a assisté à regret à plusieurs fermetures de maternité, Saint-Thierrier, Aubusson. Alors l'ancien chef de service du CHU de Limoges accueille favorablement ce moratoire de 3 ans.
Pour les mamans, c'est compliqué parce qu'il faut faire beaucoup de kilomètres pour accoucher, pour être suivi. Donc on appauvrit le paysage médical et obstétrical dans ces régions en les fermant. Donc je crois qu'il faut s'efforcer de les maintenir, mais il faut leur donner les moyens. Et le problème, c'est les moyens qui manquent, c'est-à-dire pas assez de médecins, pas assez de sages-femmes, pas assez de pédiatres.
En attendant, relève Jean-François Rousset, député Renaissance de l'Aveyron, laisser ces structures ouvertes fait courir un risque à la fois pour la mère et pour l'enfant.
Si on accepte que des accouchements se fassent dans des petites maternités dans lesquelles les critères de sécurité ne sont pas respectés, c'est rajouter du temps perdu au temps perdu. C'est-à-dire que si l'accouchement se passe mal dans cette structure, le début de l'accouchement se rajoute au temps de trajet pour l'amener dans un endroit où elle sera sécurisée, prise en charge. Il ne faut jamais confondre en termes de soins la notion de proximité et de sécurité.
Les opposants font aussi valoir que les petites maternités perdraient l'habitude de pratiquer certains actes. Et selon la Cour des comptes, celles qui font moins de 300 accouchements par an n'offrent des soins de pas assez bonne qualité aux patientes. Le professeur Yves Aubard a une solution.
J'ai connu ça dans ma région, la petite maternité du sel, l'argument était de dire il n'y a pas assez d'accouchements, les sages-femmes ne vont pas être performantes. À ce moment-là, il faut faire des équipes qui tournent, c'est-à-dire qu'il faut que les sages-femmes du sel aillent par exemple faire des accouchements à Tulle et participent au tour de garde. On peut tout à fait organiser le fonctionnement d'une petite maternité à côté d'une grosse.
Un bilan doit être fait après ces 3 années de moratoire. Cela concernera les maternités qui font moins de 1000 accouchements par an.
Merci Antoine Geoffin. Le taux de chômage en France a progressé de 0,1 point de pourcentage au premier trimestre pour atteindre 7,4% selon les chiffres publiés ce matin par l'INSEE, soit un peu moins de 2,5 millions de demandeurs d'emploi.
Quand les propriétaires de passoires thermiques préfèrent aujourd'hui se débarrasser de leurs biens.
C'est l'une des conséquences de la loi Climat et Résilience. Depuis le début de l'année, pour inciter les propriétaires à engager des travaux de rénovation, tous les logements classés G au diagnostic de performance énergétique ne peuvent plus être mis en location. Sauf que face à des travaux souvent coûteux, eh bien nombre d'entre eux préfèrent vendre, ce qui se répercute aujourd'hui directement sur le marché de l'immobilier. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Ces passoires énergétiques sont effectivement de plus en plus nombreuses à être mises en vente et forcément leur prix baisse.
Elles sont jusqu'à 20% moins chères dans certains départements. Pour les auteurs de l'étude, les équilibres du marché changent. Le diagnostic énergétique est devenu aussi important que la surface d'un bien ou sa localisation. Des logements en vente plus nombreux et moins chers, cela pourrait aider de nouveaux acheteurs à investir et rénover, en théorie. Mais au sein de l'association de défense des consommateurs CLCV, David Rodriguez reste vigilant.
Après, il faut voir, est-ce que les acquéreurs achètent ces logements
dont le prix, la valeur vénale est moindre que les autres prix du marché, donc pour l'occuper. Dans ce cas-là, c'est vrai que l'objectif du législateur va être un peu mis de côté. C'est-à-dire que l'idée, c'était de procéder à la rénovation énergétique des passoires énergétiques, des logements classés F et G. Et en fin de compte, on va avoir des passoires énergétiques qui vont continuer à être occupées par des propriétaires.
Sylvain Grataloup, président de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, lui estime que peu de personnes vont en profiter en réalité.
Quand on achète un bien qui est un bien qui est classé G, au moment où on fait les prêts, les banques veulent qu'on puisse aussi financer la rénovation. Donc, on peut penser qu'effectivement, ça puisse permettre à des jeunes actifs de faire l'acquisition de ce bien. Il n'empêche que ça ne va pas avoir un effet, comme on peut l'imaginer, aussi mécanique que cela. Certainement pas.
Pas d'effet massif donc sur les acheteurs, ni sur le nombre de logements qui seront rénovés, selon lui. Il demande donc une pause dans l'application de la mesure, d'autant qu'un certain nombre d'incertitudes demeurent encore sur les modalités exactes de son application. Le mois dernier, le Sénat a d'ailleurs voté en première lecture un texte pour assouplir justement les interdictions de location.
Merci Diane Berger.
Midi passé de 35 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Des mesures concrètes et irréversibles doivent être annoncées pour permettre la mise sur pied d'un État palestinien. C'est ce qu'on a appris ce matin d'une source diplomatique. Ça se passera le mois prochain aux Nations Unies lors d'une conférence internationale co-présidée notamment par la France. En clair, cette Assemblée Générale, Christian Chéneau, devra permettre de faire avancer la solution à deux États, israéliens et palestiniens.
Cette conférence internationale, co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite, aura lieu du 17 au 20 juin prochain, au siège de l'ONU à New York. Selon un document de cadrage, l'idée est d'en finir avec des négociations de paix sans fin. Dans la méthode, c'est l'anti-processus d'Oslo, assure un diplomate européen qui ajoute que ce sommet pour la Palestine veut prendre à rebours les projets expansionnistes israéliens et créer des faits accomplis positifs. Une quinzaine de pays participent à l'élaboration de mesures rapides, substantielles et irréversibles, selon le document qui seront annoncés lors de la conférence. 8 groupes de travail ont été créés, relatifs entre autres à la question d'un État palestinien souverain, à la sécurité, à la viabilité économique ou encore à la reconstruction. Une semaine avant l'événement, des acteurs des sociétés civiles palestiniennes et israéliennes seront réunis à Paris. En pointe sur le dossier, la France, qui pourrait reconnaître l'État de Palestine à cette occasion, s'active pour créer une dynamique diplomatique. Mais Israël a déjà mis en garde qu'il pourrait, en rétorsion, prendre des mesures unilatérales comme l'annexion des colonies juives de Cisjordanie.
Autre offensive française ce matin, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot a annoncé déposer plainte contre l'Iran, accusé de ne pas accorder à ses deux otages, Cécile Kohler et son compagnon Jacques Paris, détenus depuis 3 ans, une protection consulaire adéquate. Alors, hasard du calendrier ou pas, il se trouve qu'aujourd'hui doivent se tenir en Turquie des pourparlers sur le nucléaire iranien avec un trio européen constitué du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France, soit les 3 puissances du vieux continent qui, avec la Chine, la Russie et les États-Unis, avaient réussi à négocier un accord historique, c'était en 2015, avant que Donald Trump ne décide unilatéralement, lors de son premier mandat, de rendre le texte caduc en se retirant. Dès lors, faut-il voir derrière ce dépôt de plainte un moyen en parallèle de faire pression sur la République islamique dans le cadre de ses pourparlers sur le nucléaire? Valérie Crovard a posé la question à Noémie Kohler, laquelle s'accroche aujourd'hui à la moindre avancée qui pourrait conduire à la libération de sa sœur, même si vous allez l'entendre, elle reste extrêmement prudente.
On voit qu'il y a des négociations en cours sur le nucléaire. On ne peut pas s'empêcher de se dire que ça peut mener sur quelque chose de positif pour nos proches. Et en même temps, on n'a aucun moyen de le savoir. On se rend bien compte que la diplomatie a ses limites, hein, surtout dans le cas de Cécile et Jacques. Donc on pense que c'est important de saisir de tous les outils juridiques à notre disposition et à disposition de la France pour mettre les autorités iraniennes face à leurs responsabilités. Parce qu'on sait que c'est un organe juridique qui est reconnu par la République islamique d'Iran. Il y a eu des précédents, notamment les États-Unis l'ont saisi dans l'affaire de la prise d'otage à l'ambassade en 1979. Est-ce que ça peut faire avancer les choses? On ne peut pas s'empêcher de l'espérer. En tout cas, pour nous, c'est un signal important de la part de la France.
Noémie Kohler, donc elle répondait à Valérie Crovard.
3 ans après l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, ils devaient se retrouver en terrain neutre pour chercher ensemble un possible chemin vers la paix.
Et au final, non seulement le face-à-face tant attendu hier entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine n'a pas eu lieu, mais les deux camps ne se seront même jamais croisés. Entre deux fanfaronnades et trois provocations, les seuls mots échangés, sinon aboyés sur les rives du Bosphore, se seront résumés pour l'essentiel à une nouvelle volée d'insultes. Et toute la nuit, dans leurs pays respectifs cette fois-ci, les attaques entre les deux belligérants se sont poursuivies de part et d'autre de la frontière. Bref, un véritable désastre. Marie Pierre Véraud, bonjour.
Bonjour.
Correspondante de France Culture à Istanbul. Alors, négociateurs russes et ukrainiens vont-ils continuer encore longtemps ainsi à s'ignorer ? A priori non, puisqu'ils devraient s'entretenir avec le chef de la diplomatie turque, mais c'est vrai que les espoirs de parvenir à une quelconque avancée, Marie-Pierre, semblent malgré tout se réduire à peau de chagrin.
Oui, et les deux délégations russes et ukrainiennes vont donc bien se rencontrer. Hein, c'est ce qui est prévu pour la première fois depuis 3 ans. Alors, c'est vrai, hein, Thomas, que les espoirs sont minces d'une percée, mais tout de même, la diplomatie s'active depuis ce matin avec une série de réunions tous azimuts sous différents formats pour préparer ces premiers pourparlers russo-ukrainiens depuis 2022. La Turquie est, vous le savez, soucieuse d'éviter un fiasco total. Elle a souhaité reprendre la main hier soir. C'est le ministre des Affaires étrangères, Hakan Fidan, qui a été dépêché à Istanbul pour débloquer la situation. L'idée, c'est de maintenir le fil d'une discussion, même ténue, de ne pas perdre ce rôle de médiateur que le président Erdogan affectionne tant, d'avoir cette photo des deux belligérants à Istanbul, même si c'est vrai, la substance risque d'être fort légère. Alors, on a ainsi vu Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, ce matin, au palais de Dolmabahçe, où il s'est entretenu avec ses homologues turcs et ukrainiens. Il demande, Rubio, que le massacre cesse en Ukraine. Ça, c'est une pierre dans le jardin du Kremlin. Et il a dépêché un responsable pour s'entretenir de son côté avec le chef de la délégation russe. Auparavant, c'est le ministre ukrainien de la Défense, Umerov, celui qui va mener la délégation de Kiev ici, qui avait rencontré des conseillers à la sécurité français, allemand et britannique, ainsi qu'un émissaire américain, pour préparer ces négociations directes. Alors, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? Eh bien, l'Ukraine a redit que son objectif, c'est un cessez-le-feu inconditionnel dont Moscou ne veut pas. La clé pour débloquer tout cela, c'est bien Vladimir Poutine, que Trump a dit vouloir rencontrer dès que cela sera possible. Alors, pour éviter d'être mis sur la touche, eh bien, la partie ukrainienne ici vient de dire ce qu'elle allait négocier également cet après-midi. C'est une rencontre Zelensky-Poutine, une rencontre que le chef du Kremlin a bien sûr toujours rejetée.
Merci Marie-Pierre Véraud, en direct d'Istanbul. Et je précise que selon une source diplomatique ukrainienne, les pourparlers donc avec les Russes viennent de débuter. Longtemps sous le joug de l'une des pires dictatures communistes au monde, l'Albanie est devenue aujourd'hui et de loin le pays le plus europhile des Balkans. L'Union européenne est la seule façon pour nous de regarder vers l'avenir, a d'ailleurs déclaré hier le Premier ministre tout juste réélu, et ce alors que doit débuter aujourd'hui à Tirana le sommet de la communauté politique européenne, sommet auquel doit participer d'ailleurs le président Zelensky, manière de réaffirmer la solidarité de l'Europe avec l'Ukraine.
Alors il se trouve qu'en prévision de cette réunion, le Premier ministre britannique Keir Starmer est lui arrivé sur place dès hier.
Oui, avec en l'occurrence un objectif de politique intérieure bien précis, renforcer la coopération des deux pays dans la lutte contre l'immigration illégale. Il se trouve que Londres et Tirana avaient déjà signé un accord de coopération en 2022 sous le précédent gouvernement conservateur. Donc, celui-ci prévoyait que les Albanais arrivés au Royaume-Uni en bateau puissent directement être renvoyés dans leur pays d'origine. Cette fois-ci, le dirigeant travailliste veut aller plus loin encore en créant des centres de retour pour expulser plus facilement tous les demandeurs d'asile n'ayant pas le droit de rester au Royaume-Uni. Pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Marie-Laure Basilien-Guinche, professeur de droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3, par ailleurs membre de l'Institut Convergence Migration et de l'Institut Universitaire de France. Bonjour madame.
Bonjour.
Peut-être, pour commencer, sait-on plus précisément de quoi il s'agit en clair ? À quoi pourraient ressembler donc ces fameux centres de retour ?
Alors ces centres de retour, ça ressemble déjà au fantasme, au rêve éveillé de tous les ministères de l'Intérieur, des États membres de l'Union et de la Grande-Bretagne manifestement aussi. Ce seraient des centres fermés, donc où il y aurait privation de liberté, qui se trouveraient dans des États tiers, hors de l'Union européenne, dans lesquels seraient envoyés les ressortissants de pays tiers qui seraient considérés en situation irrégulière en Grande-Bretagne ou dans l'Union européenne. Grosso modo, l'idée, c'est de ne plus détenir sur le territoire national des ressortissants de pays tiers en situation irrégulière, mais d'externaliser leur détention en installant ces centres dans des pays étrangers.
Pour vanter sa solution, Keir Starmer a parlé, je cite, d'une innovation vraiment importante. Est-ce le cas? On sait que l'Union européenne a elle aussi ouvert la voie récemment à des centres de rétention externalisés, donc hors de ses frontières.
Alors l'innovation, c'est une innovation dans le sens où ce n'est pas encore réalisé, ce n'est pas encore mis en œuvre. On n'a pas de modèle pratique déjà établi. Mais c'est une idée qui court depuis à peu près les années 2015-2020 et qui se traduit notamment au niveau de l'Union européenne par le règlement procédure qui va permettre la création de ces centres de retour. Et d'ailleurs, on peut noter que en Albanie, justement, les centres d'accueil des demandeurs d'asile secourus en mer établis par l'Italie ont été récemment transformé par Giorgia Meloni par décret en centre de retour. Donc l'innovation n'est pas dans les idées, mais dans la mise en œuvre.
Malgré tout, est-ce que la nouveauté, ça n'est pas d'abord, et aussi peut-être cette idée qu'externaliser donc la gestion des questions migratoires se répand jusqu'à devenir de plus en plus admissible?
Alors l'externalisation, c'est un mouvement de fond qu'on note depuis les années 1990. Ça s'est traduit par des accords puis des arrangements de réadmission, comme celui que vous avez mentionné entre la Grande-Bretagne et l'Albanie. Mais on voit que ça s'intensifie. Il ne s'agit plus simplement de renvoyer un ressortissant de pays tiers vers son pays d'origine. Il s'agit maintenant de le renvoyer dans un pays où il va attendre de pouvoir être renvoyé dans son pays d'origine. Donc, il y a une sous-traitance avec des États tiers, des compétences normalement de l'État national.
La possibilité donc de mettre en œuvre de tels projets soulève évidemment beaucoup de questions. Vous l'avez évoqué d'un mot tout à l'heure. La première d'entre elles, c'est de savoir si ces centres ne risquent pas de se transformer à terme en zone de non-droit.
Quel sera le droit applicable dans ces centres? Quelles seront les garanties procédurales dont pourront bénéficier les ressortissants de pays tiers? Quels seront les droits substantiels auxquels ils pourront prétendre? On n'a aucune idée de l'organisation de ce mécanisme. Et on peut même, en plus, avoir des idées très sérieusement pessimistes si on imagine des centres, par exemple, en Tunisie, en Égypte, en Libye, dont on sait que ce sont des États où ne sont pas garantis les droits fondamentaux des migrants, où on a un profiling racial qui manifeste une discrimination à l'encontre des migrants qui est particulièrement importante et violente.
Une dernière question, outre les questions donc de respect des droits, de faisabilité concrète de ces mesures, de tels dispositifs ne risquent-ils pas aussi de confier peut-être des leviers de pression à des pays qui hébergeraient donc ces centres, leviers qui pourraient être utilisés en retour à l'encontre de ceux qui leur délèguent cette gestion?
Vous avez tout à fait raison de poser cette question. On a vu, par exemple, dans l'accord entre l'Union européenne et la Turquie, que l'accord a été utilisé par la Turquie pour faire pression sur l'Union européenne. On voit bien qu'en sous-traitant, en fait, la rétention des ressortissants de pays tiers à des États tiers, on donne à ces États tiers les moyens de faire pression sur l'Union européenne. Donc, au prisme de la souveraineté, on est en train de la désagréger, ce qui est très inquiétant pour la sécurité européenne.
Merci Marie-Laure. Basilien Guinche, donc professeur de droit public à l'Université Jean Moulin Lyon 3, par ailleurs membre de l'Institut Convergence et Migration et de l'Institut Universitaire de France, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Louise Guérin pour la préparation.
4 mois après son départ de la Maison Blanche, voilà Joe Biden face à la sortie d'un livre accablant.
Oui, ce livre dont la publication est prévue mardi prochain est intitulé Original Sin, le péché originel, est signé notamment de l'un des journalistes stars de la chaîne de télévision CNN, lequel y raconte le déclin à la fois physique et mental de l'ex-président après son élection de 2020 jusqu'au fiasco donc de sa candidature avortée pour un second mandat. Les précisions depuis New York de Loïc Loury.
Juin 2024, Joe Biden est toujours en course pour sa réélection et participe à une levée de fonds à Hollywood. Il y croise son ami, l'acteur George Clooney, mais sans reconnaître la star qui lui demandera, quelques semaines plus tard, de jeter l'éponge. Dans ce récit du péché originel, pas de révélation explosive, mais une série d'anecdotes brossant le portrait d'un Joe Biden affaibli et égocentrique, protégé de la réalité par un entourage servile et prêt à à salir, ce qui mettrait en doute ses capacités. Près de 200 témoignages, souvent anonymes, racontent pourtant les errements du président. Un sac d'os, dit l'un d'eux, jusqu'à la crainte de le voir forcé d'utiliser un fauteuil roulant. Joe Biden finira par quitter la course, mais trop tard, avec à la clé la victoire de Donald Trump. Il y a quelques jours, le démocrate affirmait malgré tout que lui aurait pu l'emporter face au milliardaire.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Un ciel bleu ensoleillé partout sur le territoire. Quant aux températures, elles seront comprises entre 14 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Nicolas Ballu pour le prochain journal de la rédaction.